MC Intégral Tour.
J'adore rouler. Pignon fixe, pas de frein. Je peux pas arrêter.
Christophe Cessieux.
De toute façon, je veux pas.
Y'en a que pour toi et ton vélo, t'es qu'un égoïste.
17h05, vous êtes sur RMC, l'intégral tour. On a pas mal de retard aujourd'hui sur les routes du Tour de France, 6e étape, on vous le rappelle, entre Abbeville et Le Havre. Le peloton est au bord de la Manche, toujours sous un beau soleil, le beau soleil normand. Il brille pas toujours, donc autant en profiter. Aujourd'hui, c'est une étape magnifique avec les falaises d'Étretat que ne vont pas voir les coureurs du peloton, mais que les touristes, les vacanciers peuvent apercevoir puisqu'on est dans cette magnifique région. Avant de faire un point sur la course, on va tout de suite filer sur la course justement avec Georges Quirino sur la moto RMC qui a des choses à nous dire. Georges.
Oui, c'est pour faire une petite carte postale de l'arrière du peloton où nous nous trouvons. On est sur des routes un petit peu plus étroites désormais, le vent qui souffle toujours de côté et un peloton tranquille où on a vu plusieurs coureurs redescendre à leur voiture, notamment Michael Rogers de l'équipe Tinkoff Saxo qui est remonté au peloton avec 9 bidons au moins sur le dos pour aller ravitailler ses coéquipiers. On a vu Tony Galopin qui s'arrêtait également faire la même chose. Je peux vous dire également que les oreillettes marchent beaucoup. On a vu Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Sky, qui parlait énormément à son talkie et c'est au moment où on a vu les Sky se repositionner à l'avant, donc ça parle beaucoup pour se replacer évidemment avec ce vent qui souffle. Ça peut être important pour la fin de cette étape.
Merci Georges. Fred, point de la course, le top course évidemment, car les choses ont évolué. Thomas Vauclair toujours dans le coup?
Non, Thomas Vauclair repris par l'avant-garde du peloton. Les trois hommes de tête confortent leur avance en ce moment. 1:45 pour le trio Perik Kemener, Kenneth Van Bilsen et l'érythréen Daniel Tekleimanot. 1:45, écart stabilisé. Thomas Vauclair n'a jamais pu rentrer, c'est dire si le trio tête a accéléré à l'approche des 40 derniers kilomètres. On est à 33 kilomètres maintenant de l'arrivée ici au-dessus du port du Havre et les équipes de sprinteurs viennent se positionner à l'avant du peloton évidemment.
Alors on est en Normandie mais il y a des Bretons dans le peloton et même des anciens coureurs bretons parce qu'il y a des retraités et oui des jeunes retraités. Christophe Lemével qui est avec nous dans notre petit studio. Salut Christophe.
Salut.
La retraite, ça y est, ça fait drôle d'effet non? D'être à la retraite.
À 34 ans.
À 34
hein.
ans quand même.
34
hein.
ans. Christophe,
non, c'est pas l'âge légal ça. Hein.
Christophe, pour nos néophytes ou pour les plus jeunes, Christophe a commencé sa carrière en, c'était quoi, 2001 de...
Alors on peut dire 2000 parce que j'étais au Crédit Agricole Espoir. Pour
oui.
Moi, c'était comme une équipe pro, donc voilà. 2000, ouais.
Passé au Crédit Agricole, puis la Française des Jeux, chez les Américains de Garmin. On vient de te voir en grande discussion avec l'Américain Christian Vandevelde à l'instant, ton ancien équipier lui aussi fraîchement retraité. Et puis après Garmin, il y a eu deux saisons chez Cofidis. Tu as annoncé la fin de ta carrière l'an passé, après la Vuelta. Ça fait quoi d'être ex-coureur cycliste ?
En fait, c'était une réflexion que je me suis fait pendant les deux dernières années, d'arrêter ma carrière. Et j'ai eu des jumeaux qui sont arrivés l'année dernière. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est maintenant le moment pour moi d'arrêter. Mon niveau, il n'allait pas en allant dans le bon sens. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. Ça faisait quand même 15 ans que j'étais pro. J'avais plus autant la motivation pour aller rouler et voilà, je me suis décidé. Quand il y a eu ces deux petits jumeaux qui sont arrivés, j'ai arrêté et voilà, j'ai fait la Vuelta. J'ai fait 22e de la Vuelta et je me suis dit stop, c'est bon, c'est terminé. Et
sur la Vuelta, on te voyait, moi je t'observais de loin, j'avais vraiment l'impression d'un coureur qui essayait de décrocher un contrat quand même, qui donnait tout ce qui lui restait, qui faisait du mieux possible. En tout cas, t'as été pro jusqu'à la fin. C'était pas dans l'objectif de décrocher un nouveau contrat, repartir sur une ou deux saisons?
Non, pas du tout, parce que j'ai eu mes enfants au mois de juin, fin juin.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'arrête. Et je voulais justement finir mon dernier grand tour, je voulais terminer sur un grand tour et je voulais essayer de bien le faire pour pas me... Voilà, je voulais faire un très bon grand tour, une très belle Vuelta et voilà, j'ai fait 22e de cette Vuelta. J'ai réussi à faire gagner Dani Navarro une étape.
Oui.
Et j'avais deux propositions pour continuer mais j'ai préféré arrêter.
C'est pas évident de concilier Lucho, de concilier vie de jeunes parents et carrière de coureur cycliste. Toi aussi, t'as eu tes enfants pendant que tu étais coureur.
Oui, l'année d'après mon titre de champion du monde, ouais, j'ai eu mon fils Alexis, puis 96 a suivi ma fille Emma, ouais. Donc très rapproché. C'est vrai que c'est pas évident parce que quand tu pars de la maison, que tu laisses tes enfants à la maison, bah, t'as toujours un petit pincement au cœur. Mais tu te dis, après tout, tu vas courir pour eux.
Oui,
tu vas gagner de l'argent pour eux. Voilà.
Évidemment.
Donc, c'est important. Mais c'est vrai, c'est toujours un petit pincement au cœur. Et quand on était sur le Tour de France, quand j'étais sur le Tour de France, les journées de repos, je profitais de les voir la journée. C'est vrai que c'était peut-être pas évident de les recevoir, de les voir la journée, parce que quand ils repartaient le soir, après, c'était dur le lendemain.
Ça fout le cafard, ça, évidemment. Alors, Christophe, jeune retraité du vélo, tu restes quand même dans le milieu cycliste. Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Christophe, qui avait fait un top 10 au classement général du Tour, quand il portait le maillot de la Française des Jeux. Du coup, il y avait eu un petit peu d'attente qui était arrivée, de la pression, visiblement. C'est bizarre à t'entendre quand tu parles de tes jumeaux, comme ça, on a l'impression que t'étais peut-être pas taillé pour être un leader, un prétendant au général. C'est arrivé une fois, mais c'était peut-être pas fait pour arriver ad vitam aeternam.
Non, c'est vrai que j'avais passé 8 ans en crédit à l'école. Je me suis retrouvé à la Française des Jeux. J'ai été leader de l'équipe directement, parce que j'avais fait des résultats sur des échappées, sur des coups de bluff.
Ouais.
Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait dans les 10 du Tour de France. C'est vrai que bon, il fallait le faire. Mais voilà, je pense que j'ai été opportuniste et vraiment bien réglé par Fred Grapp, qui était l'entraîneur de l'équipe française des Jeux. Mais voilà, je pense que j'étais pas capable de reproduire encore ce top 10. Malgré tout, j'ai fait quand même top 15 de la Vuelta et top 15 du Giro. Mais le Tour de France reste vraiment un peu plus difficile par rapport au niveau.
J'ai une idée de la réponse à la question que je vais poser. On va peut-être suivre la dernière difficulté du jour, la troisième et dernière côte du jour, parce qu'il y a un maillot à poids en jeu. Joaquin Rodriguez, vainqueur au mur de huit, porte le maillot de meilleur grimpeur avec deux petits points. Aujourd'hui, il y avait 3 points sur la route entre Abbeville et Le Havre, 3 points mis en jeu. Et sur les deux premières difficultés, c'est l'Érythréen Daniel Teklaï Manot qui est passé en tête. Ça veut dire qu'il est à égalité avec Joaquin Rodriguez et il a tout intérêt à faire la dernière côte, à faire la montée à bloc, la côte du Tilleul à 30 km de l'arrivée.
Il n'y aura pas de point dans la côte d'Ingouville tout à l'heure,
Non, c'est un faux plat peu prononcé de 850 mètres. Oui, c'est une petite patate quand même, cela ne méritait pas d'être classé comme une côte répertoriée au Grand Prix de la Montagne aux yeux des organisateurs. Daniel Teklaï-Manot qui sera en blanc à pois rouge s'il passe en tête dans 150 mètres maintenant au sommet de la côte du Tilleul. S'il échoue face à Kemener le français et Van Bilsen le belge, c'est bien Joaquin Rodriguez qui restera avec le maillot à pois. Il accélère sur la gauche et il déborde Perrin Kemener. Daniel Teklaï-Manot, champion érythréen, qui sera maillot à pois ce soir. Gros coup de pub pour l'équipe sud-africaine MTN Kubeka. 29 km 500 à parcourir. Ce trio Teklaï-Manot, Kemener, Van Bilsen compte 1 minute 15 d'avance sur le peloton. Excuse-moi, Christophe.
Alors, tout à l'heure, je te posais une question de savoir si tu restais dans le milieu du vélo. Est-ce que tu allais faire maintenant, évidemment, parce que on y réfléchit. Ça aussi, quand on commence à se dire, je vais peut-être arrêter, mais il faut réfléchir à l'après, parce que quand on a 34 ans, on a encore une belle vie à parcourir avec des petits en plus.
Ouais, en fait, je vais en fait commencer une formation dans l'économie droit du sport. Et puis à côté de ça, comme j'aime le vélo et je reste passionné de ce sport, je suis ambassadeur de la marque Scott. Et bah ouais, je travaille pour la société du Tour sur quelques événements comme le Tour de France.
Le droit du sport, le fief des études de droit du sport, c'était Limoges. À Limoges, ça, avec
l'ancien président de la fédération française, Caracchio, et puis Alaphilippe aussi, l'ancien président de la fédération, qui donnait un coup de main là-bas.
Tu feras ça en France, toi qui vivais ces dernières années en Italie avec ta charmante épouse?
Ouais, je suis revenu sur Nice, habité il y a 2 mois.
D'accord.
Et voilà, maintenant je suis résident français.
C'est là que tu feras ta formation à Nice?
Ce serait plus Limoges.
Je te verrai. Enfin...
Dernière question, Christophe. Le plus grand souvenir, c'est là que j'ai une idée de la réponse. Le meilleur souvenir de ta carrière cycliste, longue de plus de 14 ans.
C'est sur le Tour d'Italie.
Voilà, c'est sûr. Victoire d'étape sur le Tour d'Italie, c'était il y a un bout de temps maintenant. C'était en 2005, mais c'est surtout sur ce Tour d'Italie qu'il a donc rencontré Laura qui est devenue son épouse et la maman de deux petits jumeaux. Donc, comment ils s'appellent ?
Alors il y en a un qui s'appelle Loan, un prénom breton, et l'autre qui s'appelle Andrea, un prénom italien.
Tout le monde est content.
On a coupé le gâteau en deux.
Merci beaucoup Christophe d'être venu dans notre petit camion. Le tour qui va faire un passage en Bretagne, il va y avoir une ambiance de folie là dans quelques jours.
Ah bah c'est officiel, oui.
Christophe Lemével, originaire de Lannion.
Très bien, merci Christophe d'être venu dans notre studio. 27 km 900 de l'arrivée, Fred. On va faire un nouveau point, nouveau top course.
RMC Top Course.
Trois coureurs en tête échappés depuis le cinquième kilomètre sur cette longue étape avec vent de face.
Vent de face, excusez-moi, toujours trois hommes en tête. Donc Daniel Teklaimanot, l'Érythréen, Perik Kemener, le coureur breton de l'équipe Europcar, et Kenneth Van Bilsen, le Belge de l'équipe Cofidis. Ils sont échappés donc depuis le cinquième kilomètre et à 27 kilomètres de l'arrivée, ils comptent un écart stabilisé à 1 minute 20. On est sur des routes de plus en plus exposées au vent à l'approche du Havre, la Manche sur la droite de la route, et les équipes de leader sont toujours à l'avant avec les BMC et les Movistar notamment en première ligne.
On n'a pas fini la musette, messieurs. Bah oui, d'habitude à 27 km de 300 de l'arrivée, on n'a plus de musette, on est dans la course, mais là aujourd'hui ça musarde, ça lambine, donc on va revenir à la musette parce qu'on n'a pas donné la musette de Georges Quirino sur la moto RMC. Georges, alors, que nous as-tu rapporté de beau?
Une vraie musette finalement. C'est quoi la musette? C'est ce qu'on prend pour se nourrir, pour les coureurs, notamment pendant la course. Donc ce matin, je suis allé voir la formation AG2R La Mondiale pour savoir ce que mangeait par exemple Romain Bardet aujourd'hui, ou Jean-Christophe Perrault quand ils sont passés tout à l'heure à Veules-les-Roses dans la zone de ravitaillement. Et donc on allait voir Alexandre Lecoq qui est assistant dans la formation AG2R et qui prépare les musettes. Qu'est-ce qu'il y avait au menu aujourd'hui chez AG2R La Mondiale, Alexandre Lecoq?
Pour le ravitaillement, il y a des gels, pâtes de fruits, des barres et du frais, porridge ou gâteau de semoule. En barre, gel, on a 3-4 parfums, même 5. Et du coup, on varie chaque jour pour que ça soit pas toujours pareil. Pareil pour les gâteaux de semoule, des fois on met gâteau de semoule, un coup on met le porridge ou de la polenta aussi. Il y a une compote aussi, on met une compote, ouais. On met deux bidons, un coca aussi, sirop ou minéraux. Et quand vraiment il fait chaud, des fois on remplace par de l'eau. Ça dépend par rapport aussi à la température. C'est pas le pique-nique.
Oui, c'est pas le pique-nique. C'est pas non plus. C'est pas ce que Luc a mangé hier soir au restaurant quand même.
Non, c'était super bon. Ouais. Vraiment. Dans un petit étoilé, là, une étoile Michelin.
Tu regrettes pas justement l'époque de coureur cycliste quand tu mangeais des gels, des trucs comme ça en course?
Non, parce que les soigneurs de l'époque, nous faisaient des bons.
Je te pose la question parce que c'est vrai que toi, tu es notre expert nutrition, notre expert alimentation dans le camion RMC. Hein, c'est pour ça, évidemment.
Non, mais à l'époque, on avait des bons petits sandwichs, Saint-Mauré, jambon. On avait même des tranches de poulet, du blanc de poulet. Et non, on avait un très très bon ravitaillement, bien sûr, comme le disait tout à l'heure le soigneur d'AG2R, c'est ça?
Oui.
Y avait toujours des petites barres de céréales, pâtes d'amandes, pâtes de fruits, même parfois des abricots secs. Et il faut savoir une chose, c'est que les abricots secs, c'est très très bon pour le cycliste. Et puis voilà. Et puis après, en boisson énergétique, c'était genre sel, pour les sels minéraux et tout ça, parce que quand tu transpires et qu'il fait très chaud, il en faut toujours un petit peu. Mais en montagne, on avait beaucoup beaucoup de bidons aussi d'eau.
Et je crois que Thierry Bourguignon nous racontait il y a quelques années que quand il voulait faire des blagues, il rajoutait des cailloux parfois dans la musette.
Moi, j'en ai jamais eu.
C'est arrivé,
comme
ça,
j'étais le leader et que je gueulais un petit peu, donc non, je rigole. Non, j'ai jamais de cailloux, moi.
Thierry Bourguignon, pas pour toi. Hein,
mais Bourguignon, c'est normal. Il adore faire des blagues, Bourguignon, évidemment.
Ouais, bien sûr.
Le blagueur du peloton.
Il m'a jamais fait cette blague, mon Bourguignon. Par contre, on m'avait gonflé les pneus à l'époque. C'était le début des pneus, là, tu sais, chez Castorama. On m'avait mis l'eau dedans.
Dans les pneus?
Dans les pneus, ouais. Pour que ça soit plus lourd, mais c'était à l'entraînement, au stage à côté d'Aix-en-Provence, au domaine de Tourlon, chez Albert Arstagnan.
Oui.
Et à un moment donné, il m'avait rempli les deux pneus, les salopards. Je me disais, mais punaise, mais ça m'avait pas empêché de les larguer quand même. Ils en revenaient pas d'ailleurs. Alors quand je les suis après, je dis, allez, mes gaillards, demain je vous attaque encore plus.
Très bien, voilà
belle
pour
musette,
la musette.
Belle ouais. musette de Georges qui peut dire merci à Pierre-Yves hein, quand même sur cette musette.
Oui, oui,
bah, c'est
le travail d'équipe.
Travail d'équipe, on est bien d'accord.
C'est comme ça que ça marche un team.
Surtout, j'ai remarqué quelque chose.
Tu n'as rien dans ta musette.
J'ai remarqué quelque chose hier aux écrans. C'est que maintenant, les
oui, sur les écrans. De contrôle. Les RMC, BFM Télévision, bien sûr. Les coureurs, maintenant, ont une sorte de filet dans le dos.
Oui, j'ai vu ça.
Ils mettent 6, 7, voire 8 bidons.
C'est plus pratique
que dans le. Oui, oui, sous le maillot.
J'en ai une petite musette, si tu veux. Elle vient d'être reprise sur un célèbre site sportif, mais bah voilà, elle va être très courte. Suite à la victoire de Tony Martin, il y a une vidéo qui avait tourné sur le net. Tony Martin, le coureur de l'équipe Etix Quickstep. Dans l'Etix Quickstep, on avait mis en ligne la célébration en direct du directeur sportif italien Davide Bramati, qui avait vu sur l'écran de la voiture de directeur sportif la victoire de Tony Martin. Il avait littéralement explosé, une célébration à l'italienne, on peut le dire, à l'italienne, mais sans ceinture. Et les commissaires ont vu la vidéo. Non. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de Davide Bramati dans la course. Il a été remplacé par un autre directeur sportif chez Etix Quickstep. Pan sur les doigts.
Ah bah oui, quand Cyril disait que le code de la route allait s'appliquer, bah effectivement, il s'applique. Si vous voulez voir d'autres belles vidéos, n'hésitez pas non plus à aller sur le site rmcsport.fr, notamment les vidéos d'hier dans le peloton avec les chutes et le sprint en caméra embarquée sur les coureurs de la formation Lotto Jumbo. C'est sur le site rmcsport.fr. 23 km 500 de l'arrivée. Et si on pariait, messieurs, bah oui, il faut...
Les Paris RMC Tour de France.
Avec Benji qu'on accueille comme tous les jours. Salut Benji.
Salut messieurs.
Tu vas nous rappeler
salut
quels sont
Benji.
Les principaux favoris et est-ce que les cotes ont changé par rapport à hier soir, Benji?
Ouais, c'est un petit peu changé, notamment la cote de Peter Sagan qui ne cesse de baisser. Elle est à 2,15 désormais, 4,70 pour Degen Kolb. Je vous rappelle les pronos. Christophe, toi tu avais joué Peter Sagan. Cyril, Degen Kolb. Bourgui, Sagan, tout comme toi Christophe. Lucho avait joué Tony Galopin et j'avais joué Edvald Boasson Hagen. Il nous manque Fred ou encore Georges pour compléter les paris.
Galopin, sa cote elle a baissé ou
Sa cote elle a un petit peu augmenté, Lucho, puisque désormais il est à 18, donc
au lieu de quand de
15 quand tu l'as donné.
15, alors je rejoue Galopin, donc tu la mets à 18. Oui, parce que si je gagne, ça fera 18.
Non, mais tu resterais sur Galopin.
Ah bah non, mais oui, je reste sur Galopin, mais à la limite, si je reste sur Galopin, j'ai 18, non?
Tu as rien du tout. Fred, n'essaie pas de nous arnaquer, ça ne marchera pas. Tu as perdu ton maillot jaune hier et ça va continuer bientôt.
Non, mais non.
Fred.
Valverde, bien positionné en ce moment à l'avant du peloton. Mettons une pièce sur le vétéran espagnol, champion d'Espagne, qui tient une frite d'enfer en ce début juillet, même s'il a chuté en début d'étape. Blessure superficielle. Il a l'air totalement concentré et prêt à exploiter cette ultime difficulté à 1,5 km de l'arrivée. C'est sûr que certains sprinteurs ne passeront pas l'obstacle. Et lui a une jolie pointe de vitesse, le triple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège notamment.
Il est à combien l'Espagnol, Benji?
Il est à 26.
Ah ouais, quand même, c'est une belle cote.
Le jour où ça va tomber pour Fred.
Le visage de Valverde est très très significatif.
D'accord.
Particulièrement concentré, l'Espagnol.
Georges Quirino sur la moto RMC va nous donner également son pronostic.
Eh ben, je l'ai dit tout à l'heure dans mon titre d'épisode, Peter Sagan, du port du Havre.
Prenez pas de risque, hein, les mecs. Hein.
Ouais. Et oui, non, mais c'est petit, petit, des points petit, de temps en temps.
Mais
hein,
oui, c'est vrai que t'en as pas marqué depuis le début. Remarque, à un moment donné.
Très bien. Merci Lucho de rappeler ça, ça fait plaisir. Très bien, merci Benji.
Christophe, en tant que local demain de l'étape, j'ai une musette ou plutôt un tuyau pour Luc Leblanc. Demain, Lucho, tu peux tester la Livaroflette, c'est la tartiflette à base de Livaro, tu peux y aller. Hein.
Ouais.
La
Livaroflette. Tu en ramènes pour tout le monde de celle-là.
D'accord. Voilà, mais le problème, c'est que comme on arrive en Ille-et-Vilaine, je suis obligé de parler des spécialités bretonnes.
T'es obligé de rien.
Les deux.
Tu fais ce que tu veux.
Ouais, mais je peux pas faire les deux. À moins que vous
tu fais ce que tu veux, mais tu ramènes des trucs. Parce que là, on est le
attends, ça arrive. Attends, quand tu vas arriver dans les Pyrénées, je connais du monde.
Très bien. 17h24, 21 km de l'arrivée. L'écart des trois hommes de tête, Fred.
Une minute. Le cap est passé. On a fait s'arrêter les voitures de directeurs sportifs à 21 km de l'arrivée. Les BMC, les Tinkoff, les Giant Alpecin de Degen Kolb sont à la barre et fondent sur les trois échappés qui sont à l'avant depuis le début de la journée. Le Breton Péric Kemener, le Belge Kenneth Van Bilsen et Daniel Teklaï-Manot qui sera ce soir le nouveau maillot à poids du Tour de France.
Le final de cette sixième étape, c'est donc à suivre dans quelques instants sur RMC puisque nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée. Beaucoup de retard aujourd'hui, arrivé aux alentours de 17h45, 17h50, peut-être même un peu plus tard. Allez, à tout de suite sur la route du Tour.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
17h29 et l'étape n'est toujours pas terminée. 17 km encore à parcourir pour ce peloton qui a donc pris son temps aujourd'hui pour se remettre de ses émotions et des efforts consentis lors des 5 premiers jours de course. La course va peut-être quand même commencer à un moment donné, Fred. On l'espère en tous les cas. Ça fait un moment qu'elle a commencé pour les trois hommes de tête. Ils n'ont plus qu'une petite minute, mais ils ont fait un long raid, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait combien de temps maintenant qu'ils sont échappés depuis le début quasiment,
près de 170 km d'échappée maintenant pour Péric Kemener, Kenneth Van Bilsen et Daniel Teklaï-Menot. Péric Kemener qui était déjà ce matin, avant même le départ, le coureur ayant accumulé le plus de kilomètres échappés. Eh bien, il vient d'en ajouter 170. 260 plus 170, ça fait 430, ça. Ouais. Il va prendre le leadership haut la main et il sera peut-être même compliqué d'aller faire aussi bien que lui, le coureur breton, trentenaire de l'équipe Europcar, qui a tout intérêt à se montrer pour lui et pour ses petits copains, ainsi que pour le staff de l'équipe de Jean-René Bernodeau, parce qu'on cherche toujours un repreneur, on vous le rappelle, pour l'équipe Europcar.
Cyril Guimard, notre druide, est-ce que ça bouge en tête de peloton ou on continue d'avancer piano piano?
Eh bien non, on va piano piano, c'est une étape à l'italienne alors aujourd'hui. Pour l'instant, eh bien c'est vrai que lorsque nous sommes passés à cet endroit-là tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un petit peu de vent et je vous disais qu'il était peut-être il manquait peut-être à 10 km/h pour qu'il puisse provoquer des dégâts. Tout le monde est très attentif parce que ce vent existe quand même, il n'est pas suffisant pour monter des éventails, mais personne n'a envie de déclencher les hostilités à ce moment précis de la course.
Très bien, la moto RMC qui est toujours à l'avant de la course. Georges Quirino, qu'est-ce que tu as à nous raconter pour nous réveiller de la sieste là, Georges?
Derrière le peloton, on est derrière le peloton. Oui, c'est vrai. Je peux t'assurer que c'est pas la sieste parce que ça freine, ça accélère, ça freine. Si on fait la sieste, on va se retrouver au teint. Donc il faut être bien attentif. Le peloton qui prend toute la largeur de la route. Il y a des petites scènes derrière le peloton. Toujours, on a vu par exemple il y a quelques instants Lars Boom, vous savez le Hollandais de l'équipe Astana, qui est redescendu au niveau de sa voiture de directeur sportif, qui s'est appuyé pendant un petit moment à sa voiture avec Dimitri Fofanov, son directeur sportif, et Giuseppe Martinez. Et quand un coureur est aidé par son directeur sportif, il y a toujours des commissaires avec les casques rouges qui surveillent ça de très près. Et alors là, je peux vous dire qu'Astana se sont pris une énorme volée de la part des commissaires parce que visiblement, ils s'étaient tenus un petit peu trop longtemps. Ils se sont fait disputer chez Astana. Tout est surveillé à l'arrière du peloton. Vous parliez des ceintures tout à l'heure pour Davide Bramati. Ça aussi, c'est surveillé par les commissaires de course. Donc il y a véritablement la police du peloton. Si les gens ne le savent pas, ça existe bien derrière le peloton.
Ok, petite proposition de Marie sur le hashtag RMC Live qui nous dit il faudra avoir cocard à l'œil pour comme titre.
Joli,
c'est
joli,
pas mal,
joli,
bravo
joli.
Marie, belle proposition. 14 km 700, ça bon ça.
Oui, les BMC, les Tinkoff Saxo, les Movistar, les Giant Alpecin et les Lotto Soudal de Tony Galopin et André Greipel sont à l'avant du peloton, occupent toute la largeur de la route, ça roule à 50 km/h. Mais ce n'est pas une chasse effrénée que mène le peloton derrière le trio de tête, un trio toujours composé, on vous le rappelle, à moins de 15 km de l'arrivée, de Péric Kemener, le français, Kenneth Van Bilsen, le belge de l'équipe Cofidis, et Daniel Teklaï-Manot, cet érythréen de 26 ans, membre de l'équipe sud-africaine MTN Kubeka, qui endossera ce soir le maillot à poids de meilleur grimpeur. Qui est Daniel Teklaï-Manot? Qui est-il? C'est vrai, il va exploser aux yeux du grand public, surtout si dans les jours qui viennent, il parvient, et c'est possible, à conserver cette tunique, ce maillot à pois, très distinctive et très apprécié du public. Daniel Teklaï-Manot est l'un des deux coureurs noirs africains, les deux premiers coureurs noirs africains à prendre le départ du Tour de France en 102 éditions. Daniel Tekla Imanot, qui n'est pas né à Asmara, la capitale de l'Érythrée, mais qui a effectivement fait ses classes dans ce pays de la Corne de l'Afrique, à côté de la Somalie, du Soudan, de l'Éthiopie, l'Érythrée, que beaucoup, et c'est une actualité malheureuse ces derniers mois, que beaucoup d'habitants fuient. On parle beaucoup des migrants érythréens. Daniel Tekla Imanot, qui a été formé en Suisse au Centre mondial du cyclisme à Aigle, dans l'Union cycliste internationale, par un Français, Michel Thèse, et depuis il a gravi les échelons. Aujourd'hui, il découvre le Gotha du cyclisme.
Alors Fred, tu connais bien le cyclisme africain pour t'être rendu à plusieurs reprises en Afrique, et notamment l'hiver dernier. Tu étais en Afrique du Sud, peut-être pas avec ceux qui deviendront des coureurs professionnels, mais c'est un sport qui est en devenir, qu'on essaye de développer dans ce pays, en Afrique du Sud notamment. Quels sont les pays qui présentent le plus de coureurs potentiels et de coureurs professionnels potentiels dans
L'Érythrée, incontestablement.
Pourquoi l'Érythrée?
Pourquoi l'Érythrée? Parce que c'est une ancienne colonie italienne. Et l'Italie est la patrie du vélo. Daniel Tekla Imanot, qui en ce moment ne réagit pas à l'avant de la course, à l'attaque de Kenneth Van Bilsen, qui est en train de tenter de fausser compagnie à ses deux partenaires d'échappée, Perry Kemener et Daniel Tekla Imanot, qui regarde le Belge de l'équipe Cofidis partir à 12 km 500 de la ligne. Kenneth Van Bilsen qui se retourne et qui va peut-être se livrer à un baroud d'honneur pour aller décrocher le prix de la combativité aujourd'hui. En tout cas, ce sera dur pour lui, avec 45 secondes d'avance sur le peloton, 30 secondes même maintenant l'écart a chuté. Ce sera dur pour l'ancien vainqueur du Grand Prix la Marseillaise, c'était l'an passé, d'aller décrocher la victoire ici au Havre, mais c'est bien de tenter le coup. Kenneth Van Bilsen.
Cyril, est-ce que l'avenir du cyclisme professionnel passe par l'Afrique? Est-ce que tu penses que dans les années à venir nous aurons de grands champions capables de remporter de grandes courses du Gotha international, évidemment?
Oui, bien sûr, mais il faudra peut-être attendre encore une dizaine ou une quinzaine d'années, parce que là on a quelques concurrents qui arrivent au niveau professionnel maintenant, et y compris dans le Tour de France, la preuve, mais la masse n'est pas suffisamment importante pour que le cyclisme se développe encore de façon importante. Il faut dire que tous les coureurs que nous avons au plus haut niveau sont des coureurs qui ont eu la chance, entre guillemets, d'être envoyés par leur fédération, ou ce qui peut servir de fédération dans ces pays-là, qui ont été envoyés au centre d'entraînement de l'Aigle, qui est fait d'ailleurs pour cela, pour les fédérations, pour les pays où le cyclisme n'est pas véritablement développé et où il n'y a pas, ou pratiquement pas, de moyens financiers pour équiper l'ensemble de ces jeunes coureurs. Donc quand quelqu'un décèle du talent éventuellement, eh bien l'Union cycliste internationale s'organise pour pouvoir les faire venir en Suisse, et à partir de ce moment-là rentrer dans un programme d'entraînement et de formation. Ça a été le cas pour l'Érythrée.
Très bien. Le prix Antargas de la combativité du jour vient d'être attribué, non pas à Van Bilsen, qui vient de fausser compagnie à ses deux anciens compagnons d'échappée, mais à Perry Kemener de la formation Europcar. Perry Kemener, dont tu rappelais tout à l'heure, Fred, qu'il était le plus combatif, en tous les cas le plus solitaire des coureurs de ce peloton, puisqu'il a fait plus de 300 km seul depuis le départ de ce Tour de France.
Plus de 400
pardon.
Maintenant, en seulement 6 étapes.
Ça fait beaucoup.
C'est celui qui crève l'écran pour l'instant, non par le nombre de des victoires, mais par le nombre des kilomètres passés à l'avant de la course. Oui, c'est sûr que ce Daniel Tekla Imanot, qui va endosser ce soir le maillot à pois, va attirer les regards. Il a une allure très racée, c'est un grand cheval à la peau très très sombre, très noire.
10 kilomètres de l'arrivée, la banderole pour l'homme de tête, Van Bilsen.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Les 10 derniers kilomètres de cette étape qui va arriver très tard, aux alentours de 18h, peut-être un tout petit peu avant, si le peloton et si la tête de course se met à accélérer. Cyril, on le disait tout à l'heure, c'est une arrivée d'étape un peu particulière, c'est pas un sprint massif, puisqu'il y aura cette côte assez prononcée à 1,5 km de l'arrivée. Est-ce que, à ton avis, on va voir quand même les grimpeurs, les punchers se mettre à l'avant pour tenter leur chance, ou alors c'est vraiment pour les sprinteurs, encore une fois, aujourd'hui?
Non, ce sera pour les sprinteurs ou les punchers, type type, enfin sprinter puncher comme comme Peter Sagan qu'on a évoqué et qui fait et qui est quand même le grand favori sur cette arrivée. Donc il n'y aura pas de il n'y aura pas d'échappée, je pense, avant le pied de la bosse, et tout le monde sera groupé au pied de la bosse et tout le monde va s'accrocher pour ne pas prendre de cassure, y compris bien sûr les et surtout les leaders au classement général. Mais on a pu voir quand même que depuis quelques kilomètres, eh bien la course était animée et que la formation d'éventail est en train de se faire.
Ah, l'éventail, donc un coup de bordure peut-être possible. Fred, tu y crois là à 9 km de l'arrivée?
À mon avis, on est trop près de l'arrivée justement. S'il y avait des bordures à faire, c'était un peu plus loin, mais le peloton aujourd'hui a soufflé vraiment après 5 jours de Tour de France très éprouvant, des chutes, beaucoup de jus laissé par les coureurs sur la route depuis le départ d'Utrecht. Aujourd'hui, c'était un peu la trêve, en tout cas on a fait la paix dans le peloton. 8 km 700 pour l'homme de tête.
La trêve est finie, Fred, hein.
Oui.
Et s'il y avait le moindre accrochage dans la première moitié du peloton, je pense pas que ça rentrerait, hein.
Ouais. C'est pour ça qu'il faut être très attentif, évidemment. On voit d'ailleurs la plupart des leaders, en tous les cas leurs équipiers, se rapprocher de la tête de course. C'est le cas de Nibali, par exemple, que l'on voit dans la roue de l'un de ses équipiers. Voilà, ça redevient dangereux, évidemment. Donc les leaders se replacent pour éviter la moindre cassure, parce qu'on peut encore perdre quelques précieuses secondes d'ici l'arrivée de cette étape, Fred.
Oui, on aperçoit même les AG2R La Mondiale remonter Romain Bardet, leur leader pour le classement général, avec Jean-Christophe Perrault, bien sûr. On a aperçu Joaquin Rodriguez, le petit puncher de l'équipe Katusha, qui a déjà gagné au mur de Huy, mais je ne sais pas ce qu'il s'imagine. Mais à mon avis, aujourd'hui, ce sera peut-être un peu trop plat pour faire la différence. Lui, qui fait moins de 60 kilos, aura quand même du mal face à des Peter Sagan, des John Degenkolb, ou peut-être le Norvégien Edvald Boasson-Hagen, des coureurs qui sont capables de passer les bosses comme celle qui précède l'arrivée ici à 1,5 km de la ligne et qui s'achève à 450 mètres de la ligne d'arrivée. Les AG2R qui sont relayés à l'avant par les BMC, les Astana également, les Etics Quickstep, les Giant Alpecin pour John Degenkolb. On est à 7,5 km de l'arrivée et le Belge Kenneth Van Bilsen de l'équipe Cofidis fait toujours de la résistance. Il est le seul rescapé du trio d'échappés du jour et il compte 20 secondes d'avance à 7,4 km de l'arrivée.
Oui, sachant que Sagan c'est quand même peut-être le plus costaud et le grand favori aujourd'hui, je pense pas que certains coureurs comme Joaquin Rodriguez, qui a quand même gagné au mur de Huy, c'est une arrivée aussi pour lui, et je pense pas qu'il attende le dernier moment et de voir Sagan gagner. Je pense voir peut-être une attaque de Joaquin Rodriguez et voir pourquoi pas de Nibali dans la bosse pour essayer de un petit peu se tester, de faire un effort sur 300-400 mètres. C'est pas grand chose aujourd'hui, et peut-être que l'un des grands leaders peut éventuellement attaquer aujourd'hui, voir un petit peu comment répond ses principaux adversaires.
Cyril, la topographie des lieux, comme l'indique Lucho, peut être favorable quand même à un Nibali, à un Valverde, à un Rodriguez ou les 450.
Je pense que Nibali peut tenter quelque chose à 600-700 mètres de la ligne d'arrivée. Là, pour l'instant, les coureurs plongent sur le Havre, cette longue descente avec des dodanes, avec des ronds-points. Et lorsque nous sommes passés là, je l'ai même dit, je dis, oh là là, attention, c'est délicat cette descente. Il va falloir faire très attention.
Oui. Très attention, toujours.
Très attention, mais descendre à fond.
Ouais, mais c'est sec, ça va encore.
Ce sont les BMC, les coureurs de TJ Van Garderen, mais aussi aujourd'hui de Greg Van Avermaet, le puncher belge de cette formation américaine. Les BMC qui emmènent le peloton à 6 km de l'arrivée, 14 secondes d'avance pour un homme seul en tête, Kenneth Van Bilsen, qui était présent dans cette équipe Cofidis pour protéger Nasser Bouhanni depuis l'abandon du sprinter français chez Cofidis hier. Eh bien, chez Cofidis, on a rebattu les cartes et on a donné de nouvelles consignes. Place aux échappés, place aux coups qui partent de loin. Il n'y a plus personne à protéger de près. Du coup, Kenneth Van Bilsen a bien entendu le message. Lui qui était tombé également hier et qui souffrait ce matin du genou n'a pas eu peur de se lancer à l'aventure. Ils arrivent en ce moment, les coureurs du Tour, au bord de la mer sur les plages du Havre.
Exactement, nous sommes dans le Havre et effectivement Kenneth Van Bilsen vient de voir
la mer, alors que nous avons de magnifiques voiliers dans la baie du Havre.
Aux couleurs du maillot.
Couleurs du Tour de France.
Ouais, les maillots du
peloton
tour.
Très très étiré dans le bas de cette descente sur le bord de mer. Attention, attention, attention à la moindre cassure. Et effectivement, ça a singulièrement accéléré puisque Van Bilsen ne compte plus qu'une poignée de secondes d'avance, Fred.
Oui, 12 secondes pour le Belge de l'équipe Cofidis qui à 4 km 500 de la ligne maintenant va rentrer à l'intérieur dans le centre-ville du Havre après avoir longé le bord de mer. Les BMC au casque jaune, synonyme de meilleure équipe du Tour pour l'instant au classement par équipe, qui négocie un virage à 90 degrés à 4 km 400 de l'arrivée. Difficile à négocier à haute vitesse, mais pour l'instant tout le monde passe. On va traverser le centre-ville avec passage près de l'hôtel de ville du Havre, là où Cyril Guimard, me semble-t-il, avait été battu lors d'un championnat de France. Il n'y aura pas de sprint dans le bas du Havre. Il faudra monter au-dessus des chantiers du Havre avec vue sur le port, vue sur les bateaux de croisière et vue sur tous les ustensiles des chantiers, célèbres chantiers ici au Havre, pour aller décrocher la victoire sur cette sixième étape. On est à moins de 4 km de l'arrivée et Kenneth Van Bilsen ne compte plus que 10 petites secondes d'avance sur le peloton.
Avec toujours la formation BMC qui est en tête de ce peloton, même si là on voit les coéquipiers de Cavendish et du maillot jaune se positionner à l'avant de ce peloton.
Y compris Coquard avec ses équipiers.
Ah oui, Brian Coquard, le puncher de l'équipe Europcar après les longues échappées de Péric Kemener. Est-ce que c'est par Brian Coquard que le salut de la formation vendéenne va venir? Il fait partie, Brian Coquard, des coureurs qui peuvent aller se frotter à des coureurs comme Sagan, à Degenkolb. Peut-être que Tony Galopin pourrait aussi faire parler sa polyvalence, lui qui va vite et qui est capable de passer les côtes. Mais attention, il y en a des pointures dans ce peloton. Ouais. Des Nibali, des Valverde, capables de jouer la gagne aujourd'hui.
C'est terminé pour Van Bilsen, rattrapé à l'instant même par le peloton, lancé à toute vitesse avec toujours les ZX Quickstep en tête de peloton. Effectivement, Brian Coquard est bien positionné. Il me semble que les coureurs et que John Degenkolb également se rapproche de la tête de course.
Oui, très bien placé, les Giant Alpecin de John Degenkolb, les ZX Quickstep pour Mark Cavendish, mais pas forcément pour Mark Cavendish. Il y a une autre carte au sein de la formation de Patrick Lefebvre. L'autre carte, elle est championne du monde, elle est polonaise, c'est Michał Kwiatkowski qui pourrait vraiment faire la différence dans la dernière montée à 1 km de l'arrivée. On rappelle que le sommet de la bosse avant cette ligne d'arrivée ici est à 450 mètres de la ligne et ça ressemble à un mini Koberg, ce final de l'Amstel Gold Race. Le dernier vainqueur de l'Amstel n'est autre que Kwiatkowski pour l'instant. Ce sont bel et bien les Giant Alpecin, les coéquipiers de Degenkolb qui font le travail et on aperçoit en troisième position le maillot jaune Tony Martin qui travaille pour Kwiatkowski chez Quickstep.
Ah, ça va très vite en tête de peloton, oui. Et Tony Martin très attentif, hein, Cyril, il ne veut pas perdre son maillot jaune sur ce coup-là. Hein.
Non, non, il ne le perdra pas de toute façon. Nous avons également Peter Sagan qui est tout seul, hein. il n'a plus d'équipier. Il y a Geoffrey Soupe aussi qu'on a vu faire le sprint hier, qui est très bien placé également.
Et chez Cofidis, on a peut-être une autre carte, Geoffrey Soupe, qui ne passe pas aussi bien les bosses que Julien Simon, par exemple.
Eh oui,
Attention au puncher, il y a des coureurs français capables de tirer leur épingle du jeu. On arrive dans quelques instants au pied de cette montée, la fin d'une longue journée avec Mark Renshaw, le coureur australien de l'équipe ETX Quickstep, Tony Martin, Cavendish en troisième position, Kwiatkowski est un peu plus loin, je ne l'aperçois pas, John Degenkolb idéalement placé, je n'aperçois pas André Greipel, le maillot vert qui aura bien du mal à hisser son solide gabarit en haut de la côte. Geoffrey Soupe emmène dans sa roue Julien Simon. Effectivement, Geoffrey Soupe est passé de coéquipier de Bouhanni à coéquipier de Julien Simon. Attention au coureur breton qui a le même profil qu'un Philippe Gilbert ou qu'un Greg Van Avermaet. Attention, on est au pied de la bosse.
Ça y est, le pied de la bosse donc pour la tête de course avec un homme de la formation Cofidis. Ils sont deux même en tête de peloton avec l'un des coéquipiers de John Degenkolb. Pour l'instant, pas d'attaque dans cette montée.
1 km 200 de la ligne d'arrivée. Les Giant Alpecin toujours à la barre. La pente qui se cabre. Et Peter Sagan déjà en quatrième position.
Sur Rodriguez qui va peut-être attaquer.
Il est là en bonne position. Rodriguez sur le côté gauche de la route.
Je ne suis pas sûr que ce soit le petit gabarit de Purito Rodriguez. En tout cas, on passe à l'instant sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge.
Le dernier kilomètre de cette sixième étape du Tour de France. Nous sommes
chute
en tête de peloton.
Chute
Nibali, chute de Nibali et chute de Nairo Quintana me semble-t-il. On va en attendre confirmation, mais on est Romain Bardet était attardé, mais on est dans les trois derniers kilomètres. Donc réglementairement, lorsqu'il y a une chute comme ça, c'est Tony Martin qui a provoqué la chute.
À terre, hein.
Martin à terre, tout comme Bardet, tout comme Nibali et Quintana, ils ne débourseront pas la moindre seconde parce que réglementairement, quand on chute dans les trois derniers kilomètres, on est crédité du même temps que le vainqueur de l'étape. On va quand même s'enquérir de l'état de santé de Tony Martin. Devant, ça fait la course avec un coureur de l'équipe
Quickstep qui est en tête.
Tony Martin qui reste au sol assis, qui se touche la clavicule jaune. Pendant ce temps-là, un coureur de l'équipe Quickstep de l'équipe belge de Kwiatkowski vient de prendre les devants.
Je crois
c'est Zdeněk Stybar, effectivement. Le
Sagan derrière
belge.
Regarde les hommes qui sont derrière lui, personne ne
voit
derrière
normal,
Stybar
et Stybar, ancien champion du monde de cyclocross, spécialiste des classiques flandriennes, qui a fait la différence dans cette côte. Et derrière on s'observe Peter Sagan est marqué à la culotte. Alexander Kristoff, le Norvégien, fait rouler Joaquin Rodriguez pour revenir sur Stybar, mais Stybar semble avoir fait le break. Il est à 400 mètres de la ligne maintenant sur le replat. Il n'a plus qu'à foncer dans un faux plat descendant. Derrière, c'est un petit groupe d'une dizaine d'unités qui compte en son sein Alexander Kristoff, Peter Sagan et John Degenkolb, ainsi
attaque
que
Julien Simon.
Brian Coquart est là également, mais c'est trop tard. C'est Zdeněk Stybar qui va s'imposer. Est-ce que tu confirmes? Oui, c'est bien lui. Zdeněk Stybar, l'ancien champion de République tchèque, qui devance le Slovaque Peter Sagan et John Degenkolb. Il me semble que Brian Coquart prend la quatrième place. Est-ce que Tony Martin va terminer? Est-ce qu'il va franchir la ligne et repartir demain matin? C'est la grande question.
C'est la grande question, puisqu'on vous le rappelle, une chute dans la montée de cette côte. Tony Martin qui s'est remis debout, qui est attendu évidemment par plusieurs de ses coéquipiers, dont le champion du monde Kwiatkowski. Il semble souffrir. Tout à l'heure, il s'est touché la clavicule gauche.
Ça ne va pas le faire. Il ne repart pas et il a le bras en équerre. Tous les coureurs cyclistes, tous les pratiquants de cyclisme connaissent cette position. Quand on a une clavicule cassée, on ne peut pas tendre le bras, on ne peut pas lever le coude à hauteur d'épaule, et Tony Martin n'est toujours pas remonté sur son vélo. Il est accompagné de certains équipiers, dont le champion du monde Michal Kwiatkowski. Il a 4 coureurs de l'équipe Etix Quickstep autour de lui. Tony Martin qui voudrait bien terminer, qui va terminer probablement,
mais qui ne peut pas poser la main gauche sur son guidon, me semble-t-il.
Et il a encore la côte à terminer quand même. Il est maudit Tony Martin. Il avait réussi à prendre le maillot jaune hier, il avait eu beaucoup de mal à profiter de sa première journée en jaune, lui qui avait échoué à la place de Dauphin les deux étapes précédentes, derrière Cancellara notamment. Il avait remporté son étape à Cambrai et endossé le maillot jaune. Il n'avait pas profité du jaune hier sous la pluie.
Il
chute à 1 km de l'arrivée seulement. Il est poussé par 3 équipiers.
Il va finir, Kwiatkowski. Il va terminer cette étape.
On va revoir sans doute avec les images, mais je pense qu'il doit toucher la balustrade.
Oui,
percuter je ne sais plus quel coureur à sa droite.
Nibali qui était juste à côté, me semble-t-il. Nibali qui va en terminer dans un instant. Alors on rappelle qu'il n'y aura pas de répercussions, sauf évidemment pour Tony Martin. Tous ceux qui vont terminer, leur retard ne sera pas pris en compte, Fred.
On
rappelle qu'il y a la règle des 3 km et que donc tous les coureurs qui sont passés dans le même temps aux 3 km vont être crédités du même temps sur la ligne d'arrivée. Nibali qui passe à l'instant même la ligne d'arrivée, alors que Tony Martin qui ne peut pas poser la main gauche sur son guidon est poussé, aidé par ses équipiers, dont le champion du monde Kwiatkowski. Il tenait à terminer cette étape. Tony Martin avec le maillot jaune, l'orgueil du maillot jaune, mais demain c'est sûr, c'est certain, Luc, il ne prendra pas le départ de la septième étape.
C'est la clavicule
étape.
C'est carrément cuit, on en aura les détails ce soir, mais je pense que là, franchement, là, en se tenant comme ça et en pliant le coude et sa main contre son torse, je crois que c'est terminé pour, malheureusement, pour Tony Martin.
Ouais, il était tellement heureux, triste, hein. Tellement heureux à Cambrai d'endosser enfin, lui à 30 ans qui a presque tout connu à son niveau dans le cyclisme. Il était tellement heureux d'endosser son premier maillot jaune, mais aux alentours de la 10e position, alors que le sprint se préparait, il s'est mis en danseuse et il a embarqué avec lui Vincenzo Nibali. C'est lui qui est à l'initiative, qui est responsable de la chute.
suite. Martin. On comprend pas bien exactement ce qu'il fait, hein, Cyril.
Il a rien touché, Cyril. Il a pas touché les balustres.
Il fait un écart. Non. On a l'impression qu'il veut donner, qu'il veut frotter contre le corps qui est à ses côtés. Oui. Mais
Non, il se passe quelque chose un tout petit peu avant.
Peut-être qu'il y a un saut de chaîne, peut-être qu'il a il a mal changé de vitesse et peut-être que tout le monde l'a vécu ça quand on se met en danseuse et que la chaîne a un problème, crac,
il y a un petit quelque chose qui se passe avant qu'il parte sur la droite.
Voilà, image terrible que celle de ce maillot jaune, Tony Martin, qui a vraiment le masque et qui va en terminer dans quelques instants, toujours encadré de ses hommes, dont Katowski et toute la formation Ethics Quickstep. Tony Martin acclamé ici à l'arrivée dans les rues du Havre.
Oui, Ethics Quickstep qui pleure avec Tony Martin et qui rit avec Zdeněk Stybar. Quel destin contraire aujourd'hui pour la formation belge managée par Patrick Lefebvre. Ils étaient passés au travers sur les sprints avec Mark Cavendish. Ils avaient décroché la timbale à Cambrai avec Tony Martin et ils remettent ça aujourd'hui avec Stybar. Est-ce qu'il y aura du champagne ce soir à l'hôtel pour la victoire du Tchèque spécialiste des classiques? Champagne amer s'il y en a. Zdeněk Stybar qui, on le rappelle, s'impose devant Sagan et Degenkolb.
Voilà, Tony Martin qui vient à l'instant même de franchir la ligne. Alors, sera-t-il au départ demain ou n'y aura-t-il peut-être pas de maillot jaune au départ de la course demain, à moins que l'abandon soit officialisé ce soir? S'il n'est officialisé que demain, Chris Froome n'aura pas le maillot jaune.
Christopher Froome peut endosser le maillot jaune, mais on a vu des cas de figure où le maillot jaune doit se retirer après l'étape et on a vu de nombreux cas de figure où le dauphin au classement général, qui devient de fait leader du général, refuse d'endosser le maillot jaune par décence, par respect pour celui qui a été éliminé sur chute. Je vois mal comment, à une époque où l'image prime quasiment presque sur le résultat, comment Christopher Froome et les Sky pourraient partir demain avec le maillot jaune sur le dos?
Les Allemands échouent en Normandie.
Les Allemands, oui, mais c'est triste de voir cette image de Tony Martin, un formidable coureur, formidable rouleur qui, à 30 ans, avait enfin obtenu le Graal, décroché ce maillot jaune. Il comptait bien l'amener au moins jusqu'à Plumelec, sinon jusqu'après la journée de repos. Eh bien, a priori, ça se complique pour Tony Martin, qui, on vous le rappelle, a donc franchi la ligne après plusieurs minutes de retard. Alors, son retard ne sera pas accumulé, mais c'est surtout son épaule qui inquiète, évidemment, puisqu'il ne peut plus mettre la main sur son guidon, a priori clavicule cassée pour Tony Martin. On rappelle la victoire de Stybar, le Tchèque de la formation Ethics Quickstep, qui s'impose devant Peter Sagan et Brian Coquard, qui termine troisième de cette étape. John Degenkolb est quatrième, Tony Galepin sixième. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire pour cette étape qui aura été à un rythme plutôt lent. Voilà donc pour le direct qui s'achève en même temps que l'étape. Évidemment, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, notamment sur le final triste de cette sixième étape au Havre, ici même. 17h56, vous allez retrouver maintenant Virginie Fulpin qui va prendre le relais, évidemment, même si Cyril Guimard n'est pas loin pour décrypter et débriefer ce qui s'est passé. Virginie est là.
Salut,
évidemment.
Salut Christophe. On pensait que c'était calme cette étape et puis finalement, ben voilà, comme d'habitude depuis le début de ce Tour de France, on a eu droit à une chute impressionnante. Le maillot jaune à terre, on va en reparler avec Cyril Guimard. Ce sera aux alentours de 18h15. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.